Radio Burier.
Bonjour, bienvenue sur Radio Burier. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la météorologie d'un point de vue général sur lequel quelques élèves de notre gymnase ont travaillé. Concernant les thèmes de notre émission, nous allons tout d'abord vous faire un bref rappel théorique des notions générales de la météorologie. Puis ensuite viendra un sujet sur les catastrophes naturelles, car nous savons bien que la météorologie n'a pas que des effets positifs, d'où ce sujet sera traité avec le sujet de El Niño en Amérique du Sud et en Australie. Puis ensuite, en lien avec les catastrophes naturelles toujours, nous savons que ces catastrophes peuvent provoquer des effets secondaires, comme par exemple au Japon, aujourd'hui c'est un thème d'actualité où d'autres problèmes sont survenus, comme les risques nucléaires, qui sont aussi liés au thème de la météo avec le risque de propager les particules nucléaires. Ensuite, toujours en lien avec la santé, nous allons voir la météo et la santé avec un problème un peu moins important et conséquent que le risque nucléaire, mais comme par exemple les gens qui sont parfois sensibles au feu et au vent important. Ensuite, la météo n'a pas qu'un intérêt scientifique, elle a aussi parfois un intérêt traditionnel. C'est ce que nous allons voir avec le thème suivant, qui parlera de la météo traditionnelle et des signes que l'on peut observer dans le ciel, comme le ciel rouge par exemple. Et enfin, nous avons parlé que des facteurs humains à travers la météorologie, mais il n'y a pas que les hommes qui la perçoivent, mais aussi les animaux. C'est ce qui fera l'objet de nos derniers thèmes, la météorologie et les animaux. Après une petite musique de Claude François, Le lundi au soleil, nous allons avoir de brefs rappels théoriques sur la météorologie.
Regarde ta montre, il est déjà 8h, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Faire beau sur les routes, le lundi au soleil, le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer.
Bonjour, comme annoncé, je vais vous faire un bref rappel théorique de la météorologie. Et pour cela, il faut tout d'abord savoir que notre météo est basée sur l'énergie solaire et divers facteurs s'intègrent à cela. Par exemple, l'angle d'incidence ou l'inclinaison de la Terre qui définit nos saisons. Ensuite, tous les événements météorologiques tels que les précipitations ou les vents se passent dans une partie de l'atmosphère qui s'appelle la troposphère. C'est la couche la plus basse et elle s'élève jusqu'à 10 000 mètres. Et pour finir, tous nos courants météorologiques de la Terre sont régulés par des hautes pressions, autrement appelées anticyclones, et des basses pressions, appelées aussi dépressions. Présenté de telle manière, cela pourrait être un peu simpliste, car il faut prendre en compte la rotation de la Terre et donc les courants de chaque hémisphère ne tournent pas du même sens et la vitesse n'est pas la même au pôle qu'à l'équateur. Tout cela est dû à la force de Coriolis. Il faut préciser quand même que ces éléments théoriques annoncés sont très généraux et simplistes, car la météorologie est un domaine complexe. Et merci de votre attention et tout de suite après la musique, la présentation des catastrophes El Niño.
Ce qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me supporte. Ou je reprends seul le chemin. Sans toi, j'irai bien. Au soleil, m'exposer un peu plus. Au soleil, quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore.
Alors pour cette deuxième partie, nous allons essayer de comprendre mieux le phénomène El Niño sur la météorologie. Bienvenue à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mademoiselle Sampogna, qu'est-ce qui se passe en temps réel ?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, donc ça se passe en décembre, le sud-est du Pacifique connaît des hautes pressions et l'Indonésie, elle, connaît des basses pressions. On a l'océan Pacifique, en fait, qui est le plus grand réservoir d'eau du monde, qui emmagasine de grandes quantités d'énergie solaire grâce, en fait, à ses mouvements de brassage. Et en fait, les alizés qui soufflent du nord-est et du sud-est refoulent cette eau chaude vers l'Indonésie et le nord de l'Australie, ce qui provoque en fait une montée de 30 à 70 cm du niveau de l'eau dans le Pacifique occidental et en fait une baisse équivalente dans le Pacifique est. Et en fait, tout cela engendre une remontée des eaux plus profondes d'environ 200 mètres et également aussi en fait des eaux froides. Et on parle d'un phénomène d'upwelling. En fait, ce phénomène vient compenser ce déficit sur les côtes d'Amérique latine. Et en fait, à cause du surcroît qu'il se passe, les eaux sont chargées en éléments nutritifs, comme par exemple du potassium, du magnésium et en plancton, qui attirent et alimentent les bancs de sardines et d'anchois. Et c'est pour ça que le Pérou et le Chili attirent en fait les plus gros producteurs de poissons du monde. Et en entretemps, en fait, les alizés chargés de vapeur... chargés en vapeur d'eau, engendrent d'abondantes précipitations lors de leur ascension au-dessus de l'Indonésie. Donc c'est jusqu'à 7 mètres de précipitations par an. Alors que de l'autre côté du Pacifique, dans les Andes et les hauts plateaux du Pérou, il se passe plutôt un phénomène de sécheresse.
Très bien, merci. Alors Monsieur Ferrari, comment est-ce que ça fonctionne ce courant ?
Alors après la situation générale dont a parlé Madame Sampogna, je vais à présent expliquer la manifestation du phénomène El Niño. Alors donc cette masse d'eau chaude qui est en mouvement va engendrer des alizés qui dans le Pacifique occidental va faire bouger la masse d'eau jusque l'Amérique du Sud vers le Pérou, le Chili, etc. Donc les alizés partant de l'ouest à l'est, il y aura moins de précipitations dans le Pacifique ouest proche de l'Indonésie. Et donc cela engendrera des sécheresses. Mais il y aura d'abondantes pluies dans les Andes à cause du déplacement donc de cette masse d'air. Et les précipitations plus abondantes dans les Andes vont modifier les courants marins, ce qui aura une diminution de la pêche. Il existe aussi un phénomène inverse que l'on nomme la Niña, qui concerne plutôt les côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Très bien, alors Mademoiselle Vatter, parlez-nous un peu des conséquences.
Donc tout d'abord, on a remarqué des inondations en Nouvelle-Zélande à cause de El Niño. Et quant à El Niño, on a plutôt découvert des sécheresses en Australie ou à Borneo, qui sont une cause des alizés. On a aussi constaté que la déforestation entraînait des forts risques d'incendie à cause de El Niño. Et quant à l'est de l'est de l'Amérique du Sud, comme la Bolivie et l'Équateur, c'est plus touché par des inondations. Et de plus, la trajectoire de certains cyclones s'est déviée directement sur Hawaï et Tahiti à cause de El Niño.
Très bien. Alors, merci à tous. Maintenant, nous allons écouter une chanson de Moonriser, Fall of Rain. Et nous allons ensuite parler du risque nucléaire et de la météorologie.
Alors bonjour à tous, bienvenue à cette émission. Donc cette troisième séquence est dédiée au risque nucléaire, notamment à la crise nucléaire japonaise. Alors nous avons ici trois gymnasiens Monsieur Blatty qui va nous résumer la situation à Fukushima, Monsieur Denobili qui va nous expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire, et pour finir Monsieur Danâtre qui nous expliquera la propagation des particules radioactives dans l'atmosphère. Alors Monsieur Blatty, pouvez-vous nous faire un bref résumé des événements passés à Fukushima s'il vous plaît?
Oui, alors bonjour à tous. Donc tout a commencé il y a 12 jours de cela, le vendredi 11 mars, avec un séisme qui s'est déclaré tout près du Japon. Ce séisme avait une magnitude de 8.9 sur l'échelle de Richter, ce qui en fait le séisme le plus violent depuis, le quatrième le plus violent depuis 1900. Suite au séisme, ça a fragilisé différentes infrastructures sur le territoire japonais, dont la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a donc eu une explosion le 12 mars, là-bas, à cause du réacteur numéro 1, ce qui a eu pour effet le rejet de déchets radioactifs dans l'atmosphère. Cela a continué à empirer car le mardi 15 mars, les réacteurs 2, 4, 5 et 6 de la centrale étaient touchés. Il y a eu une explosion également dans le réacteur numéro 2 et le réacteur numéro 4 était en proie aux flammes. Ce jour-là, on a considéré que les événements, la crise nucléaire japonaise était considérée de 6 sur 7 sur l'échelle des accidents nucléaires, ce qui en faisait une catastrophe qui pouvait être pire que celle de Tchernobyl. Le 20 mars, la centrale de Fukushima a été totalement fermée. Le 21 mars, on constate que la radioactivité a touché tout l'environnement alentour de la centrale dans les 100 km, ce qui fait que ça peut avoir des effets sur une durée de plus de 10 ans. Et actuellement, on constate encore des panaches de vapeur radioactive au-dessus de la centrale.
Merci beaucoup, M. Blatty. Maintenant, M. Denobili, pouvez-vous nous faire un bref résumé d'un fonctionnement d'une centrale nucléaire, s'il vous plaît?
Alors oui, tout à fait. Donc une centrale nucléaire, tout d'abord, il faut savoir qu'elle a le même fonctionnement qu'une chaudière. Donc un combustible, donc en l'occurrence un combustible nucléaire, il va permettre de créer de la chaleur. Cette chaleur, elle va permettre, au travers donc d'un échangeur, de transformer de l'eau en vapeur, qui va donc accélérer une turbine. Ensuite, cette turbine, elle entraînera à son tour un alternateur qui lui produira de l'électricité. Et donc, la production de chaleur, elle est obtenue dans le réacteur de la centrale nucléaire. Donc ça, c'est pour le fonctionnement général. Donc, ce qui s'est passé au Japon, donc à la suite du séisme, les lignes électriques qui alimentaient la centrale nucléaire de Fukushima, ils ont été coupées donc par le séisme, et ensuite le tsunami a endommagé donc les groupes électriques de secours, donc on ne pouvait plus refroidir le réacteur. Donc il faut savoir que la vapeur créée en fait par le combustible, il faut bien qu'elle soit refroidie, sinon tout explose. Les Japonais n'ont pas eu d'autre choix que de noyer donc tous les réacteurs par de l'eau de mer pour pouvoir les refroidir. Ensuite, pour éviter que la pression soit trop élevée, ils ont dû relâcher de la vapeur d'eau, mais celle-ci, elle contenait de l'hydrogène, et donc à la suite de l'échauffement du combustible, il s'est accumulé dans les parties supérieures de la structure, et au contact de l'air, le toit du réacteur numéro 1 a été soufflé. Ensuite, un incendie s'est déclaré près du réacteur numéro 4, qui était lui en maintenance, et donc d'une forte dose de radioactivité s'est dégagée de ce fameux réacteur.
Parfait, merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Delattre, pouvez-vous nous expliquer donc la propagation de ces particules radioactives dans l'atmosphère?
Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Et comme l'a dit Monsieur Blatty tout à l'heure, donc depuis le 12 mars, des particules radioactives s'échappent de la centrale nucléaire de Fukushima et la situation n'est pas encore stabilisée, donc ces particules continuent de s'échapper. Donc, ces mêmes particules sont dispersées dans l'air en fonction des vents. Cette masse d'air radioactive, elle est essentiellement composée de iode et de césium radioactif. Elle se déplace dans les courants atmosphériques de l'hémisphère nord pour l'instant. Concernant la Suisse, qui se trouve environ à plus de 10 000 km du Japon, elle ne va pas être beaucoup touchée car la concentration de ces particules va fortement diminuer. C'est dû à plusieurs phénomènes comme la dilution des particules et les dépôts progressifs de radioactivité sur les sols et les océans. Ces masses d'air, elles vont atteindre la Suisse aujourd'hui, donc le mercredi 23 mars, ou demain, donc le 24 mars. Ces jours-là, la pluie, elle n'est pas prévue par Météo Suisse, donc les retombées radioactives risquent d'être encore plus faibles que prévu. Et ça risque d'être aussi beaucoup moins important. Enfin, les retombées risquent d'être beaucoup moins importantes encore que l'explosion qu'il y avait eu à Tchernobyl en 1986.
Parfait, alors merci beaucoup pour vos exposés. Alors tout de suite, la Java des bombes nucléaires par Serge Reggioni, et ensuite suivra la séquence numéro 4 qui porte sur la météo et la santé.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
pour fabriquer une bombe. Mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je sais pas, beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça, à mesure que je deviens vieux.